c'est la rentrée littéraire au programme de cette première heure des matins du samedi, en compagnie d'une romancière qui, du haut de ses 29 ans, a déjà écrit une dizaine de livres, dont 6 romans. Tous ont été remarqués, certains même récompensés. On peut citer, par exemple, le prix Mauvais Genre France Culture, Le Nouvel Observateur, en 2012, pour Le Roi n'a pas sommeil. Voilà qu'elle publie le 7e roman aux éditions de l'Iconoclaste, sous le titre Une bête au paradis, et c'est l'un de nos coups de cœur de la rentrée. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous vous destinez à devenir une Amélie Nothomb avec un livre par an? Parce qu'avec une petite dizaine de livres déjà en quelques 11 ans, on va dire, vous y ressemblez déjà.
Alors je porte très mal le chapeau, donc je ne peux pas être une véritable Amélie Nothomb. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais écrire un peu moins et publier un petit peu moins, parce que je me rends compte que c'est un rythme extrêmement soutenu. Donc ma décision des derniers jours a été de me dire qu'il fallait peut-être un petit peu ralentir la course. On sait que l'écriture, c'est comme un marathon et que parfois, il faut savoir se reposer pendant la course.
Et vous êtes presque marathonienne, donc vous savez de quoi vous parlez,
oui,
d'une certaine façon, Cécile Coulon. Ça, c'est peut-être le privilège, pas de l'âge, hein, puisque vous ne l'avez pas, mais peut-être le privilège de l'été où on se pose, on ralentit et on prend des décisions qui sont des décisions de sagesse. Mais à quel âge avez-vous commencé à écrire?
Je crois que j'ai commencé à écrire les premiers textes, évidemment très mauvais, à l'adolescence. Mais j'ai appris à construire une histoire à l'adolescence, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et puis après, vers 15 ans, j'ai commencé à écrire un roman. Avant, j'écrivais des nouvelles. J'ai commencé à écrire un premier roman, toujours pas très bon. Mais voilà ce qu'on peut écrire à 15 ans avec toutes les angoisses qu'on peut avoir à cet âge-là. Et c'est devenu voilà un roman qui faisait peut-être 200 pages. Et puis, de fil en aiguille, avec beaucoup de chance dans les gens qui m'entouraient, qui me corrigeaient, qui savaient m'aider. Vraiment, j'ai été très, très entourée et j'ai reçu beaucoup de conseils. J'ai commencé à, on va dire, à endurcir mon écriture et à endurcir ma construction de mes histoires.
Vous savez ce qui a déclenché l'écriture, le souhait, la volonté, voire l'urgence d'écrire?
Oui, j'aimais tellement lire et j'aimais tellement qu'on me lise des histoires que j'ai fait un bête transfert. Je me suis dit, si moi ça me procure tellement d'émotions, je faisais partie de ces enfants boulimiques de lecture, vraiment. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie d'apporter ça à des lecteurs. J'ai envie qu'il y ait des gens qui, en lisant mes livres, soient dévorés par l'histoire et la dévorent ensuite. C'est vraiment par mimétisme absolu.
Vous êtes inquiète du fait que peut-être vous êtes déjà un petit peu trop vieille pour le coup pour parler de cette génération, mais quand même qu'une jeune génération aujourd'hui lise moins, soit happée par les écrans, avec une offre démultipliée par ailleurs, et du coup est moins de temps accordé à la lecture?
Alors paradoxalement, ils lisent plus mais sur écran, puisqu'ils n'ont jamais été autant en lien avec l'écrit, que ce soit pour des SMS, pour des articles ou pour des posts sur Facebook, Instagram et consorts. En ce qui concerne le livre papier, j'ai été inquiète et je ne le suis plus parce que les librairies jeunesse fleurissent un peu partout en France à une vitesse incroyable et parce que il y a tout de même, enfin là c'est des chiffres, hein, on voit qu'il y a une démultiplication et une expansion d'une littérature adolescente qui n'a jamais été aussi forte. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être moins de jeunes qui lisent, mais ceux qui lisent lisent énormément.
Un mot sur la rentrée littéraire et le système à la française ou la spécificité française de cette rentrée littéraire, Cécile Coulon. Cette année, 336 romans français vont être publiés de à peu près maintenant jusqu'à octobre. C'est un petit peu moins que les années précédentes. Certains se sont rendus compte que finalement, peut-être, il y avait trop de romans édités en ces rentrées littéraires. Est-ce que vous vous intéressez à ces débats sur la production, la baisse de la lecture, la qualité de certains livres par rapport à d'autres, enfin, tout ce qui va, les prix, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent ou vous êtes dans votre bulle?
Alors ça m'intéresse parce que j'en fais partie et donc je m'intéresse à ce qui m'entoure et aussi parce que jusqu'ici j'avais toujours refusé de sortir en rentrée littéraire. Mes livres sortaient au mois de mars, au mois de février. Là j'ai changé de maison d'édition, je suis passée de chez Viviane Ami aux éditions de l'Iconoclaste et nous avons pris cette décision ensemble. Et autant vous dire que les mois qui ont précédé la sortie du livre, j'avais quelques angoisses à ce propos. J'espère que les années durant, on va réussir à baisser cette production à ce moment-là de l'année, parce que c'est énorme, même si ça, aujourd'hui ça a un peu baissé, mais il faut encore baisser. Et Et si ça venait de moi, je vous dirais qu'il faudrait pas que les maisons publient plus de 3 ou 4 livres pour la rentrée littéraire, afin que tous les livres publiés puissent trouver des lecteurs et puissent trouver un public, parce qu'on le sait que dans tous ces livres-là qui sortent, il y en a beaucoup qui ne seront pas ouverts. Et c'est terrible pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les gens qui travaillent, mais surtout pour les auteurs, de savoir que son livre a peu de chances d'être lu. Pourquoi le publier dans ce cas-là? Donc ça, c'est une vraie question. Ensuite, pour tout ce qui concerne, on va dire, les prix et comment dire, tout ce qui gravite autour du livre, j'avoue que maintenant, je laisse ça aux gens dont c'est le métier. Et j'essaie de me concentrer le plus possible sur l'écriture du prochain roman, tout simplement.
Est-ce que l'autrice que vous êtes est satisfaite du statut des auteurs actuels ?
Pas du tout. Pas du tout, tout simplement parce que je me rends compte que dans des pays comme l'Allemagne, où il y a quand même des lois qui font qu'un auteur ne peut toucher, doit toucher au moins 10% du prix du livre, en France, on n'en est pas encore là. Et en France, on a une difficulté énorme à admettre qu'il y a un vrai problème du statut des auteurs et des autrices actuellement. Alors c'est en train de changer, puisque ça rue un peu dans les brancards, et ça vient de la littérature jeunesse, il faut le dire, ça vient des auteurs jeunesse et des illustrateurs jeunesse, qui sont encore moins bien rémunérés et moins bien payés que ce qu'on appelle vulgairement la littérature blanche ou la littérature adulte. Mais j'espère vraiment qu'à l'avenir, on se rendra compte que le jour où il n'y a plus de livres, il y a aussi plus d'éditeurs et il n'y a plus de lecture. On oublie que derrière... Que derrière les romans, que derrière les essais, que derrière l'écriture scénaristique, que tout ce avec quoi on est en contact aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent, et c'est comme si on oubliait ça. On se dit, il doit y avoir sans doute des petits robots, des algorithmes qui écrivent. Et non, il y a des gens qui sont là, et ces gens-là doivent manger, enfin tout simplement.
Vous êtes là, Cécile Coulon, pour nous rappeler fortement qu'il y a effectivement des auteurs qui écrivent derrière des livres majeurs, des livres très importants, comme Une bête au paradis que vous avez donc choisi d'éditer à l'Iconoclaste. Comme je vous demandais ce qui a déclenché l'écriture, si vous vous souvenez, s'il y avait quelque chose qui avait déclenché l'écriture, je vous demandais si vous vous souvenez ce qui a déclenché l'écriture de ce livre-ci.
Oui, deux choses. La première, c'était le lieu, une ferme. J'ai utilisé géographiquement une ferme que j'ai un peu connue quand j'étais enfant, qui s'appelait la ferme du Châtaignier en Corrèze, qui était un très très bel, qui est toujours un très bel endroit. Et j'aimais la géographie, la topographie de ce lieu, et j'avais très envie que mon texte ne sorte pas des limites.
De cet enclos,
tout à fait, mais qui est alors un enclos qui paraît tellement vaste, c'est un enclos dont on oublie que c'est un enclos. Et ensuite la deuxième chose, c'est que lorsque j'ai écrit ce texte, j'étais vraiment seule d'un point de vue professionnel et personnel, et je me suis dit, c'est le moment de lâcher les chevaux. C'est soit tu arrêtes d'écrire, parce que voilà, ça fait 10 ans que tu y es, ça fait 11 ans, on a compris ce que tu voulais faire, on a compris tes thèmes, si tu as quelque chose à faire de nouveau, c'est maintenant, soit tu arrêtes, tu fais autre chose. Et j'ai voulu aborder pour la première fois la question du corps des femmes, d'une part, et du corps des femmes dans l'agriculture et dans ces lieux agricoles, qui est un milieu difficile. Très beau, mais difficile, et j'ai eu envie de parler de qu'est-ce qu'on fait du désir, qu'est-ce qu'on fait d'un corps adolescent, un corps de femme, puis un corps de vieille femme, dans un endroit où on est de toute façon soumis au corps des animaux. Et j'avais envie d'essayer, en tout cas, d'expliquer comment se confrontent, puis se mélangent, le désir animal et le désir humain et féminin.
Alors, ce livre s'ouvre sur la vision du lieu, de cette ferme isolée au bout d'un chemin de terre qui est donc le cœur du livre. On a le poulailler, on a les champs, on a la fosse aux cochons. Autour, on voit à peine le village, la place, le marché. Et puis ensuite, vous entrez, Cécile Coulon, vers le premier chapitre, l'entrée en matière, qui est précisément une scène d'amour. Une scène d'amour entre les deux personnages principaux, que sont Blanche et Alexandre. Ils ont 16 ans. Et ils font l'amour en même temps qu'au l'étage principal de la ferme. Ils sont au premier étage et à l'étage principal, on égorge le cochon. Est-ce que vous voudriez bien nous lire ce début de scène d'amour entre les deux amants ?
Tout à fait. Et ce chapitre s'intitule « Faire mal ». Blanche et Alexandre firent l'amour pour la première fois pendant qu'on saignait le cochon dans la cour. Ils avaient fermé les fenêtres sans tirer les rideaux. En bas, la fête battait son plein. L'animal gueulait comme un supplicié, les paysans voisins s'étaient rassemblés. Le sang dessinait de larges coquelicots sombres sur la terre battue. Sous l'arbre, devant la porte, Louis avait dressé des tables recouvertes de nappes aux initiales de la famille Aymard. Une quarantaine de personnes assistaient à l'écoulement. Les petits regardaient, les yeux écarquillés. Émilienne, au premier rang, disait « Là, là, doucement, le sang, gardez bien le sang. » Au premier étage, Blanche et Alexandre, nus, se serraient, enlacés, sachant quoi faire sans savoir comment faire, sachant que ce serait douloureux, sans savoir comment rendre cette douleur plus belle. L'odeur du sang dans la cour rivalisait avec celle de la peau d'Alexandre, du sexe de Blanche. Ils ne sentaient plus rien qu'eux-mêmes, n'entendaient que leur souffle mêlé, tout à la fois apeuré et soulagé de se retrouver ensemble, enfin.
Voilà, on est vraiment dans cette scène d'ouverture entre la sensualité et la violence qu'on retrouve dans votre livre tout du long, avec cette bestialité de l'homme dans tous les sens du terme. Juste un mot sur ce titre, Une bête au paradis, puisque le paradis, c'est la ferme en question, c'est le nom de ce domaine, ou de cette ferme isolée au fond d'un chemin de terre. Pourquoi Une bête au paradis ?
Alors, le titre a été une vraie...
C'est un casse-tête.
C'était un casse-tête, comme c'est toujours le cas, souvent. Il y avait évidemment la question du paradis, puisque c'est la première chose qu'on voit du texte, et c'est la pancarte, vous êtes arrivés au paradis, et on aurait pu rajouter derrière, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Ce qui m'a, moi, beaucoup frappé quand j'ai cherché le titre, et quand j'ai écrit le texte, c'était de me dire, à quoi ressemble le paradis sur Terre ? Est-ce que c'est vraiment un endroit merveilleux où tout est propre, où tout est étincelant, et c'est l'inverse. En fait, le paradis humain et animal, c'est un endroit qui sent le sang, qui sent la bouse, qui sent le sperme, et sans lui, on n'est rien, on n'existe pas. C'est là où tout commence, et là où tout commence, et ben c'est un peu gluant. J'aime pas trop l'expression quand on dit ma propre vie. Une vie, c'est pas propre. Une vie, c'est plein de sucs, c'est plein de choses qui sortent de nous. Et pour moi, j'avais envie d'un paradis qui soit un paradis vivant, et donc un paradis qui soit presque souterrain, qui grouille un peu de bestioles. Et Une bête au paradis, y avait la question que devait se poser le lecteur, à savoir qui est la bête dans cette ferme. Est-ce que c'est vraiment l'animal ? Est-ce que l'animal, finalement, n'est pas plus humain que l'être humain ?
C'est un peu une bête au paradis et les femmes en enfer, d'une Absolument. Certaine façon. Alors après cette longue scène d'ouverture, votre première partie d'ouvrage, Cécile Coulon, fait vraiment penser à une longue chanson, parce que vous énumérez, vous présentez les différents personnages. Vous savez à quelle chanson ça m'a fait penser en lisant le livre ?
Non, vous
souhaitez le savoir ?
Absolument.
Eh ben, on va écouter.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens...
Ces gens-là, bien sûr, de Jacques Brel.
Ça me va.
Ça vous
ça
va,
va complètement.
Bon. Alors il y a chez vous, là on égrène avec Jacques Brel, hein, jusqu'à Frida, qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Mais dans votre livre à vous, Cécile Coulon, on a Émilienne. Émilienne, c'est la grand-mère. Vous écrivez un arbre fort aux branches tordues qui avait été une vieille femme. Pas une vieille dame, une vieille femme. Il y a Louis, qui est arrivé un soir adolescent, vous écrivez le visage ravagé par la colère du père, devenu le commis de la ferme. Il y a Gabriel, qui est un petit-fils taiseux depuis que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et sa sœur Blanche, avec ses grands yeux verts. Et puis Alexandre, qu'on a vu dans cette scène d'ouverture. C'est un peu une saga familiale rurale que vous nous avez dressée là.
C'est complètement une saga familiale rurale. Et en tout cas, ce que j'avais envie aussi d'expliquer, c'est que tous les membres de cette famille, de cette drôle de famille, parce que Louis n'est pas un membre du sang, Gabriel et Blanche sont là, ils sont les petits-enfants élevés par leur grand-mère parce que les parents ne sont plus là. C'est une famille qui est quand même composée d'absents, de manière générale.
Les fantômes aussi.
De fantômes, voilà, ils portent tous les fantômes et ça fait du bruit, les fantômes, quand ça secoue les chaînes. Et surtout, c'est une famille qui est liée par une seule chose, c'est-à-dire le travail à la ferme.
Leur terre.
Leur terre, et Émilienne, donc la grand-mère, qui est si pleine de ce bon sens, de cette rudesse, mais aussi de cette bienveillance propre à la ruralité, leur a inculqué très tôt que la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler la terre, de ne pas être propriétaire de la terre, mais d'être le gardien de la terre. Et c'est deux choses très différentes. Et c'est ce qui va aussi séparer Blanche et Alexandre. Alexandre se considère comme un propriétaire terrien, quand Blanche pense qu'elle n'est que de passage et qu'elle doit préserver ce qu'elle a entre les mains.
Là, dans cette scène, dans le début de votre ouvrage, ils ont 16-17 ans, tous les deux. Ils se connaissent depuis l'enfance et ils sont... vraiment amoureux l'un de l'autre, hein. Et puis évidemment Alexandre donc veut partir parce qu'il a d'autres ambitions, et Blanche est vraiment collée à sa terre. Est-ce qu'elle veut rester, c'est une question, est-ce qu'elle veut rester ou est-ce que elle est prisonnière, est-ce qu'elle est la bête de somme qui refuse l'animal sauvage qui est en elle?
Je crois qu'en fait la question de son envie et de sa volonté ne se pose jamais pendant le livre, puisque Blanche n'a connu que sa grand-mère et n'a connu que ces lieux. Elle n'est jamais sortie de cette ferme. Bien sûr qu'elle trouve ce lieu très beau, mais parce que c'est son paysage quotidien. Et pour elle, il n'y a rien de
violent.
Elle
ne s'est jamais posé de questions.
Il n'y a rien de violent. Il n'y a rien de sale. Elle est bien là où elle est à sa place. Et quand on est à sa place, il n'y a plus de questions même de plaisir ou d'envie. Elle sait qu'elle doit être là. Elle sait qu'elle doit prendre la suite de sa grand-mère. Et que si elle ne le fait pas, personne ne le fera. Donc si elle part, le lieu n'existe plus. Le lieu tombe à l'abandon. Les troupeaux, personne ne s'en occupe. Et ça, on oublie que c'est quand même une question extrêmement importante dans le milieu rural actuel, dans l'agriculture actuelle, avec les nouvelles façons de travailler la terre. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à vieillir, qu'on sait qu'on doit transmettre? Et quoi, soit on n'a personne à qui transmettre, soit les gens à qui on veut transmettre préfèrent autre chose. Leurs envies prennent le dessus sur ce qu'on avait prévu pour eux.
Ça, c'est un grand thème, Cécile Coulon, qui traverse votre œuvre, hein, parce que dans « Trois saisons d'orage », qui avait reçu le prix des libraires en 2017, vous faisiez déjà de la terre un personnage à part entière. Et vous aviez même écrit un essai sur la vie au champ, ça s'appelait « Les grandes villes n'existent pas », ça avait paru aux éditions du Seuil. Et vous écriviez dans ce livre à propos des villages, « On y habite pour rêver d'en partir, on les quitte pour rêver d'y revenir ». Il y a un peu de ça entre Blanche et Alexandre.
Complètement, puisqu'Alexandre revient. Et il revient avec ses rêves et ses ambitions pour transformer ce lieu, justement. Donc, il y a un très, très gros fantasme du retour à la Terre, mais du retour à la Terre comme on a envie de la penser. C'est-à-dire que ce qui me gêne chez Alexandre, même si pour moi, il n'est pas un mauvais personnage, j'aime pas du tout l'idée qu'il y ait des bons et des mauvais personnages, et ce qui me gêne, on va dire de manière générale, c'est cette idée qu'on peut revenir là d'où on vient et qu'on peut transformer cet endroit à notre guise. C'est-à-dire qu'on considère que le paysage est un terrain de jeu et surtout un terrain d'expérimentation personnelle. Je trouve ça très gênant, moi, personnellement, parce que les lieux sont là avant nous et on n'a pas à défigurer. C'est comme si vous aviez un enfant et que vous disiez, bah, dis donc, je trouve que son nez est pas très beau, je vais lui faire refaire le pif. Comme ça, il sera plus joli. C'est exactement la même chose. Si on faisait ça sur un enfant, mais tout le monde serait absolument en colère. Il dirait, mais c'est scandaleux. Et quand il s'agit... des champs, des territoires, des forêts. Alors, vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on peut encore plus en parler. Mais on oublie complètement qu'il y a des millénaires avant nous, qu'il y en aura après nous, et que nous ne sommes que de passage. Et Alexandre l'oublie absolument, ce passage-là.
Votre écriture est très visuelle, Cécile Coulon, très cinématographique, on voit les choses. Est-ce que c'est parce que vous vivez à Clermont-Ferrand avec beaucoup de verre, et beaucoup de verre aussi dans votre roman, avec donc beaucoup de campagnes, de montagnes, de volcans autour de vous, et que vous êtes effectivement, vous êtes plongé dans ce que vous voyez autour de vous pour écrire?
Il y a deux choses. La première, c'est que évidemment mon environnement est quand même connaît deux couleurs, c'est-à-dire le vert de la campagne, qui est un vert très profond, et le noir de la pierre qui a servi à la construction de la ville. Clermont-Ferrand est une ville noire, avec une cathédrale noire qui veille sur les autres bâtiments, que moi j'adore personnellement. Mais quand vous vivez là depuis si longtemps, tout se colore de cette fameuse, on va dire, cette fameuse lumière et cette fameuse pierre. Et ensuite, quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, c'est un huis clos, les personnages ne sortent jamais des limites de cette terre. Pense à Claude Chabrol. Pense aussi à La Nuit du Chasseur, à Délivrance. Si Chabrol avait filmé cette histoire, comment il aurait fait? Et j'ai pensé au boucher, j'ai pensé à la cérémonie, et je me suis dit, comment moi je vais faire pour happer le spectateur et le lecteur dans cette histoire avec ces personnages, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais j'avais envie qu'on entre en eux et qu'ils ne nous quittent pas à la fin du texte.
Alors vous ne nous quittez pas, hein, Cécile Coulon, puisqu'il est 7h30, on va écouter les titres de l'actualité. On vous retrouve d'ici deux minutes, mais on est déjà plongé dans votre univers. Et on retrouve notre invité. Il n'y a pas que Yann Moix dans la rentrée littéraire. Il y a aussi, par exemple, Cécile Coulon qui est avec nous ce matin. Cécile Coulon qui écrit Une bête au paradis chez l'Iconoclaste. Changement d'éditeur pour vous. Mais Cécile Coulon qui écrit aussi de la poésie. Je me souviens de ce recueil, Les Ronces, qui a reçu le prix Apollinaire l'année dernière. Et j'ai envie de vous demander pourquoi on a besoin de poésie. Pas vous, on, dans la société. Pourquoi a-t-on besoin de poésie aujourd'hui?
Je crois qu'on a besoin de poésie parce que la plupart du temps, on comprend absolument pas pourquoi on est là et que la poésie ne donne pas de réponse, mais elle vous rassure et elle vous cajole. Je suis pas du tout dans une idée de poésie naïve, candide, mais il y a quelque chose dans le fait de lire un texte d'une page ou de deux lignes qui est capable de tout à fait nommer ce que vous êtes en train de ressentir quand vous n'avez pas le langage pour ça, qui est, je trouve, absolument merveilleux, très étrange aussi, parfois qui peut faire peur et être un peu dangereux, de se dire mais comment quelqu'un d'il y a deux siècles ou trois siècles ou quelqu'un que je ne connais pas dans un autre pays est capable, en une ligne, de résumer ce que je ressens depuis 20 ans, par exemple.
Ça veut dire que vous en lisez aussi beaucoup, Cécile Coulon?
De toute façon, quand on écrit, que ce soit des romans, de la poésie, n'importe, il faut d'abord, énormément lire.
Lesquels, par exemple? Je ne sais pas si je vous demande un ou deux poètes aujourd'hui que vous lisez, relisez, re-relisez.
Alors, mon poète, on va dire, favori, le nominé est, c'est René Guy Cadou, qui est un poète du début du XXe siècle, qui est mort très très jeune. Et ses textes sont d'une beauté et d'une simplicité. On sait à quel point, pour arriver à un vers simple, il faut énormément de travail. Et il était instituteur à la campagne, et il a écrit sans doute les plus beaux poèmes français des 100 dernières années. Et puis, si je devais en citer un très contemporain, je pense que je parlerais de Thomas Vineau. Thomas Vineau, c'est quelqu'un qui doit publier un à deux recueils par an et qui est, je pense, quelqu'un qui est engagé dans sa poésie comme il est engagé dans la contemplation de ce qui l'entoure, comme il est engagé dans sa vie quotidienne auprès de ses enfants, auprès de ses lecteurs et auprès de son, on va dire, de sa terrible envie d'essayer de raconter. C'est vraiment, lisez la poésie de Thomas Vineau.
On note, on note.
Cadou, parce que ce sont deux très grands auteurs français. Et puis, voilà, on m'a demandé deux noms.
Eh ben oui, ça ira très bien comme ça. Sinon, on est trop, il y a trop d'informations, on sait ce que c'est. Des poèmes que vous postez, d'ailleurs, Cécile Coulon, sur Facebook. Vous avez, instauré comme une communauté de lecteurs via Facebook.
Ce qui n'était pas le but, parce qu'au départ, je me suis inscrite sur Facebook parce que j'écrivais un peu de poésie, comme beaucoup de gens. Puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment où beaucoup de gens écrivent et moins lisent.
Comme quoi, vraiment, on en a besoin.
Oui. Et j'avais envie de tester, tout simplement, puisqu'on me répétait, non mais n'envoie pas des maisons d'édition, de toute façon, la poésie en France, c'est compliqué. Peut-être souvent, on me disait ça parce qu'on trouvait juste que ce que je faisais, c'était mauvais et qu'on n'osait pas me le dire. Mais donc, j'ai posté en ligne et en fait, d'année en année, il y a eu une communauté de lecteurs qui s'est créée. Et le recueil de nouvelles, le premier né de toutes ces posts Facebook, s'appelle Les Ronces, est sorti l'année dernière.
Et il a eu un prix, donc bravo, déjà.
Merci.
Est-ce que la poésie se marie bien avec la course? Vous êtes une grande coureuse.
Oui, je crois que la course est un engagement poétique ou une forme physique poétique absolue. Parce que toute personne qui court, que ce soit du sprint ou du marathon, il y a une urgence au geste, une urgence aux muscles. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas entamer une course, qu'elle soit de 5 km ou de 100 km, sans être un tout petit peu marteau déjà, et sans être entièrement dévoué à ce moment-là. Je crois que ce que j'aime dans la course à pied, c'est pour ça que je la pratique. Bon, d'une part, ça se fait n'importe où, seul, à n'importe quelle heure. Et j'aime ça, j'aime cette liberté que ça offre. Et surtout, c'est difficile, c'est physiquement difficile. C'est peut-être un sport qui fait plus de mal au corps qu'autre chose. Et il y a cette poésie de la douleur dans la course à pied qui, pour moi, est d'une beauté absolue. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir mal et utiliser cette douleur comme une force. Et je pense que dans la vie de tous les jours, être capable de faire ça, c'est une belle avancée.
Et les mots de la douleur, c'est ce qu'on retrouve dans vos livres, en particulier dans celui-ci, Une bête au paradis. Une dernière question, vous avez fini votre thèse sur corps et sport dans la littérature contemporaine?
Je suis obligée de répondre à cette question.
Non, vous n'êtes pas du tout obligée. En revanche, vous êtes obligée de répondre à la question suivante, qui est: qu'est-ce que vous avez choisi comme musique pour terminer?
Alors, comme c'est assez tôt, il est assez tôt pour un samedi, j'ai choisi un morceau de Paul Simon qui s'appelle Late in the Evening et qui est une belle façon de se réveiller, je pense.
Merci Cécile Coulon.
And I remember there was a radio coming from the room next door. And my mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through.
Un grand merci Cécile Coulon. Je rappelle le titre de ce livre, Une bête au paradis aux éditions de l'Iconoclaste. Roman âpre, sauvage, hypnotique et captivant, je dois vraiment le dire. Merci beaucoup d'être venu pour cette première de rentrée des matins du samedi.
Merci à vous.
Il est 7h40, dans une poignée de secondes, et donc dans une poignée de secondes, on retrouve la fabrique médiatique.